La main. Il était à côté de moi dans l'escalier roulant bondé. Il portait un jean normal et un fin blouson beige clair, un peu sale. Sa tête, aux yeux abattus et cernés, malgré son jeune âge, était recouverte d'une capuche légère. Tout d'un coup, une main s'est glissée entre les corps serrés de la foule, l'a saisie au coude, l'a tirée, l'a isolée du groupe. C'était une main vigoureuse, blanche et propre, légèrement poilue. J'ai levé la tête et j'ai entendu. Contrôle d'identité, s'il vous plaît. Des policiers en tenue par dizaines nous observaient. La main appartenait à un civil. Il a obtempéré, sans rien dire, résigné. Ce soir, il est peut-être au centre de rétention. S'il refuse de monter dans l'avion, il écopera de 2 mois de prison. Cet après-midi, c'était ça le métro Bellecour à Lyon.
Oui, bonjour, Dominique Jacomi à Paris, au 01 42 64 63 24. Comme je ne savais pas qui m'adressait, j'ai pensé à vous. Je prends la ligne B du RER depuis quelques semaines pour me rendre à Roissy. Et chaque fois que j'arrive aux environs du Bourget, j'ai un haut le cœur. Il y a un camp de Roms installé au milieu de fondrières, entouré d'immondices, dont le niveau monte chaque jour un peu plus. Je pense que d'envoyer un camion benne pour ramasser ces ordures ne doit pas être du domaine de l'impossible. Alors même si ces gens ne sont pas des électeurs en puissance, la municipalité, quelle qu'elle soit, à défaut de leur offrir un terrain viabilisé, pourrait au moins nettoyer le terrain. Voilà, j'avais envie depuis plusieurs jours de vous laisser ce message. Bonne continuation à vous.
Bonjour, Daniel Mermet. Kosovo, Tchétchénie, Rwanda, etc. On peut remonter le temps, retrouver l'origine des effets des pouvoirs. La première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Les assujettis ont le cœur bas et molle, surtout si les tyrans se mettent la religion devant pour garde-corps. Ce sont toujours 4 ou 5 qui maintiennent le tyran, qui lui tiennent le pays tout en servage. 600 profitent sous eux et font de leurs 600 ce que les 6 font aux tyrans. Les 600 tiennent sous eux 6000 qu'ils ont élevés en état. Et qui voudra s'amuser à dévider ce filet verra que non par les 6000 mais les 100 000, les millions par cette corde se tiennent au tyran. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant les choix d'être sujet ou d'être libre, quitte sa franchise et prend le joug, qui consent à son mal ou plutôt le pourchasse. Celui qui nous maîtrise tant n'a que des yeux, n'a que des mains, n'a qu'un corps. Comment a-t-il tant des mains pour frapper s'il ne les prend de vous? Pour avoir la liberté, il ne faut que la désirer. Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre. Si vous voulez en savoir plus, lisez les pamphlets d'Étienne de la Boétie, car je ne peux pas tout vous dire. Adios, Daniel.
Et oui, il faudrait chaque jour lire la Boétie, et merci pour cette éloge de la désobéissance, pour cette éloge de l'insoumission à la servitude volontaire. Ça commence bien cette semaine. Cette clôture ou ce mur, on le sait, dans son principe comme dans son tracé, qui empiète largement sur la Cisjordanie, a soulevé une large réprobation dans le monde. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, la Cour internationale de justice de La Haye entame une série d'auditions sur ce sujet du mur. Alors l'issue de ces audiences sera symbolique, le jugement porté sera symbolique, mais il n'en sera pas pour autant dépourvu de conséquences. Or, vous savez, dimanche, un attentat suicide contre un bus à Jérusalem a fait 8 victimes, ce qui évidemment ne favorise pas les Palestiniens devant cette cour de justice. pour Israël. C'est une affaire de sécurité et pas du tout de politique. Et évidemment, pour les Israéliens, c'est l'inverse. Alors, pourquoi s'intéresser à ça aujourd'hui? C'est qu'évidemment, il y a un lien entre les tensions et les conflits du Proche-Orient et nous, et chez nous, sans parler de métastases d'un cancer, il y a évidemment des conséquences qu'on observe ou auxquelles on participe. Je pense à l'affaire Dieudonné, je pense à nouveau au débat sur l'antisémitisme. Donc c'est intéressant, je crois, de retourner au pied du mur pour voir comment c'est vécu quotidiennement par les Palestiniens, par ceux qui vivent quotidiennement au pied de ce mur-là. Alors, j'ai parlé d'antisémitisme, on a reçu beaucoup de messages, évidemment, sur Dieudonné, l'affaire Dieudonné, faut-il pas, il provoque pas, c'est inadmissible, liberté d'expression, etc., etc. J'ai préféré vous faire entendre un message qui est trop long. Ça nous arrive chaque jour, on dirait il est bien, mais alors il est vraiment trop long. Celui-là est vraiment trop long, ne recommencez jamais, il fait 4 minutes, mais je trouve que c'est une analyse calme, articulée, disons, et intéressante sur l'antisémitisme, sur l'utilisation de ce chantage à l'antisémitisme et sur la réalité d'un véritable antisémitisme. Écoutez cette analyse, c'est un auditeur, je connais pas, j'ai trouvé que ça méritait qu'on l'écoute attentivement et puis ensuite, donc, on part au pied du mur.
Bonjour et bravo à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Ma remarque fait suite à l'émission du jeudi 19 février 2004 sur France 2, l'émission Campus présentée par Guillaume Durand. Monsieur Sylvain Attal, l'auteur du livre Plaît, le nouvel antisémitisme, a eu des propos décevants. En effet, pour illustrer selon lui la montée de l'antisémitisme en France, il a pris comme exemple le rapprochement et les prises de position qu'ont pu avoir lors du Forum social européen certains groupes altermondialistes envers la cause palestinienne. Lorsque monsieur Attal évoque ce sujet, il parle des altermondialistes et non pas de certains ou quelques altermondialistes. Ce qui en fin d'allocution fait croire à l'auditoire que tous les altermondialistes, puisqu'il évoque le mouvement en général, sont antisémites. Je trouve cela grave. En effet, le rapport entre la défense de la cause palestinienne, qui en premier lieu tient à la fin du conflit israélo-palestinien qui a déjà fait tant de victimes, et l'antisémitisme, est un parallèle rapide, et dans le cas où les partisans de cette cause seraient antisémites, ils ne représentent pas la totalité, loin s'en faut, des militants ou sympathisants du mouvement altermondialiste. Pourquoi dans un pays comme la France, berceau des droits de l'homme et symbole de la liberté de penser, où le droit d'expression reste un acquis fondamental, n'est-il pas possible de critiquer, de faire des remarques ou simplement d'être en désaccord avec la politique actuelle du gouvernement de M. Ariel Sharon sans être immédiatement taxé d'antisémite? Faut-il être de confession juive ou avoir la nationalité israélienne pour bénéficier de ce privilège? La réflexion de M. Attal est choquante car l'antisémitisme est effectivement une plaie effroyable et dramatique, surtout dans la France d'aujourd'hui au regard de son histoire. Et comme toutes les notions de cet ordre, il est impératif de les traiter avec prudence et de ne pas faire de trop rapides généralités. Il en va de même pour des qualificatifs fascistes ou staliniens. Ce sont des adjectifs forts de signification. On ne peut pas traiter de fasciste quelqu'un à la légère car ce mot a une signification bien particulière et lourde de conséquences. L'antisémitisme n'est pas un simple racisme, entre guillemets, ce qui serait déjà condamnable, mais la Shoah rend ce terme immensément plus puissant. Un antisémite est un être misérable, ignorant le passé et qui mérite d'être condamné, comme le prévoit la loi française. C'est pour ces raisons qu'il faut utiliser ce mot avec parcimonie, ce n'est pas une banalité. La cause altermondialiste a suffisamment d'opposants pour ne pas en plus être définie comme antisémite. Néanmoins, il est à peu près certain, au regard du nombre croissant de sympathisants, que l'on trouve parmi ses rangs des personnes antisémites. Et cela est très regrettable, mais dans tous les groupes, il y a des brebis galeuses. Or, sous prétexte qu'une affaire de pédophilie a touché un homme d'église ou un professeur, faut-il juger tous les prêtres et le corps enseignant dans sa globalité comme ayant les mêmes comportements abominables? Bien sûr que non. Je dois rappeler que parmi l'élite sociale d'Israël, notamment certains pilotes de chasse de Tsal, ont signé une pétition allant à l'encontre des ordres de leur gouvernement, car ils étaient contre la politique mise en œuvre dans le conflit les opposants aux Palestiniens. Sont-ils antisémites pour autant? Je me trompe peut-être, et cette analyse n'a que peu de valeur car je ne suis ni politologue ni historien spécialiste du Moyen-Orient. Mais je pense qu'il serait temps, à l'heure où Jean-Marie Le Pen et son point de détail notoirement antisémite et négationniste, au plus haut point, passent sur toutes les ondes pour des prétextes administratifs de potentielle inéligibilité n'étant qu'un moyen d'utiliser les médias, afin de déverser des torrents de propos xénophobes, de transmettre ses idées d'intolérance et de non-droit à la différence. N'oublions pas de bien distinguer le réel antisémite et les propos antisémitisme qui est indiscutablement une attitude odieuse et indigne de l'espèce humaine. À faire l'amalgame entre la critique d'un système, quel qu'il soit, et le sentiment de haine et de rejet que certains éprouvent envers une catégorie de personnes définie par son caractère ethnique, politique ou religieux, c'est dévaluer les cas réels d'antisémitisme et porter un coup au droit de critiquer. Ce droit à la contestation qui a fait avancer toutes les nations démocratiques, et notamment Israël, et restera à jamais, je l'espère, un acquis. S'il pouvait s'étendre au reste de la planète, cela fera sans doute du bien à tous les peuples qui en sont encore aujourd'hui malheureusement privés. Et c'est ce droit, parmi bien d'autres, que défend la majorité des États mondialistes. C'est tout. Allez, au revoir, c'était Laurent à Herblay.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, Israël, au pied du mur.
Flight number 2, arriving from New York.
Supposons qu'on détruise votre maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez au village ou bien vous partez en Jordanie?
Je suis Raki Shebo. Je suis à Bait Alay.
Je vais rester assis ici et qu'ils détruisent la maison sur moi.
אחרי זה אני יודע מה יהיה, יקחו אותי בכוח מהבית, אני לא יהיה מתאבד, ילך עם חמאס, ילך עם לא חמאס, אני לא יודע מה, אני עד עכשיו לא החלטתי, אבל מי החליטו לעשות לי את זה והרסו את הבית, אז אני לא יודע מה אני, אבל אני בטוח שאני אעשה משהו קשה, يعني, קשה לי ולהם.
אחרי זה, s'ils détruisent ma maison, ça sera sur moi. Après ça, je ne sais pas ce que je ferai. Je n'ai pas réfléchi à ça. J'irai avec le Hamas, j'irai pas avec le Hamas. En tout cas, je suis sûre que je ferai quelque chose de très dur.
Dites, ne dites pas. Dites, barrière. Ne dites pas, mur. Dites, barrière de sécurité. Ne dites pas mur de la honte. Dites barrière provisoire. Ne dites pas mur de l'apartheid. Dites barrière provisoire de protection. Ne dites pas mur des lamentations. Ne dites pas mur de Berlin, comme le dit un certain Arafat. Ne dites pas rideau de fer, comme je l'ai lu dans le quotidien L'Humanité, qui s'y connaît en rideau de fer. Ne dites pas barrière de haine et de méfiance, comme l'a dit Laura Bush, oui, l'épouse de George W. Elle a dit ça, Laura, barrière de haine et de méfiance. Non, dites barrière provisoire de sécurité. Voilà, d'abord le mur qui sépare quoi et quoi. On va le voir, on va aller au pied de ce mur. Eh bien, vous avez compris que d'abord, le mur, c'est des mots. C'est des mots d'abord. La manipulation lexicale, l'entourloupe langagière, comme dans toute guerre, souvenez-vous, les dommages collatéraux, les frappes chirurgicales, armes des destructions massives, autant de pure invention de vocabulaire. Eh bien, cette fois, c'est barrière provisoire de protection. Et comme c'est un peu long de dire barrière provisoire de protection, eh bien, on dit fence. En anglais, fence, ça veut dire barrière, ça veut dire clôture, la barrière d'un jardin, d'un pré, comme vous allez clôturer votre potager, eh bien, voilà, c'est fence. En vérité, cette barrière ou ce mur, on le dira indifféremment au cours de ce reportage, eh bien, cette barrière ne fait pas vraiment obstacle. Peu de gens civilisés s'y opposent. Je dis civilisé, je ne parle pas des barbares, arabes, islamistes, gauchistes, antisémites, terroristes, altermondialistes, c'est-à-dire l'empire du mal. Je parle de nous, la civilisation. Que voulez-vous, puisqu'il n'y a pas d'autre solution face à ces terroristes fanatiques? Alors, vite, 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 un mur. Il y a un mot que je n'ai pas encore employé, c'est le mot frontière. Car en aucun cas ce mur ou cette barrière n'a la prétention, n'a l'ambition d'être une frontière. Une frontière, c'est ce qui est établi et construit entre deux États différents, avec des identités, des États construits et qui se respectent et qui parfois échangent, bien souvent, heureusement, échangent, parfois se font la guerre, mais sont de force et de légitimité
égale. Là, c'est pas du tout ça. C'est un mur unilatéralement décidé, imposé. C'est pas une séparation convenue, c'est quelque chose qui est imposé. Et quelque chose qui est imposé, non pas sur la fameuse ligne verte, la ligne qui, en 1967, séparait les territoires palestiniens d'Israël, mais c'est un mur qui est en construction à l'intérieur, puisque là on est en Cisjordanie, et bien largement à l'intérieur du territoire palestinien. Pourquoi à l'intérieur ? Eh bien pour rejoindre des colonies et l'implantation, comme vous voulez, on dira indifféremment colonie et implantation, ou implantation, eh bien pour rattacher ces implantations ou ces colonies au territoire israélien. Si ce projet fait l'unanimité, c'est plus un projet, on est en train de le réaliser, et ça avance très très vite, fait l'unanimité, ou presque, du côté israélien, de l'autre côté, ça fait l'unanimité contre, évidemment. Il serait très très difficile de trouver un Palestinien qui soit d'accord avec la construction de ce mur. Alors, en le voyant, en l'apercevant, on a l'impression d'être dans un cauchemar de série B, une science-fiction caricaturale, une nouvelle écrite par Amin Dada ou par le Père Ubu soi-même. Il me semble que c'est d'abord le symbole d'une faillite politique et morale totale. Mais c'est pas un sentiment qui est partagé par les Israéliens. Non, ils trouvent que c'est pas si mal, c'est un moindre mal. Ça a été, vous le savez, une initiative au départ travailliste, et puis aujourd'hui, eh bien, c'est le gouvernement d'Ariel Sharon, le Likoud, la droite et l'extrême droite, qui sont en train de construire cette barrière de sécurité. Autrement dit, la gauche en a rêvé et la droite l'a fait. Alors, sur le terrain, comme on dit, sur le terrain, et non pas depuis Grenoble, mais sur le terrain, on va voir ce qui se passe au pied du mur. شفاك يا شعبي عم بتعاني وانا بسأل حالي بقول شو اللي خلاني اجيك يا شعبي واصحيك بهالغناني بطلع عليك وشايف كيف حالتك تعباني من يوم ليوم شفاك يا شعبي عم بتعاني وانا بسأل حالي بقول شو اللي خلاني اجيك يا شعبي واصحيك بهالغناني الله وين جبالك اياها اسرع من لمح العين مش زي بعض غناني سمعت بدين فيهاش معاني مش بكلمه وكلمتين مش بسطر ولا سطرين وقت بلون للنديش ولا صفحه وصفحتين واحد واثنين من هون ببلش بقولكوا اهلين متذكرين لما بلشنا نغني وصار لت سنتين زمان لما كان عنا بس غنيتين قلتولنا تعالوا بعدين هسه صرتوا تيجوا وتمدوا اليدين مش مهم هاي كانت البداية مهم انه تعرف شعبي ليش انا لهون جاي عشان اسمع كلماتي اللي واضحه زي المراي بغناني الثوره اللي مش راح يكون لها نهايه مثل الشمس لما بتطلع بتدفي العالم عم بيسقع شو بدنا نخلص اللي بتجمع عشان شعبنا كله يسمع ولا بيسمع شو اللي احنا بنعمله وبتطلع بتخلي مخطوطه بتلمع مثل المي اللي بالصحراء بتنبع رفعنا لغتنا فوق عالمنا واللي مش عاجبه مش مننا لانه العربي هو اصلنا مش راح نفلتوا عندنا نعمل زي غيرنا ونفكر بس بحالنا وبسرعه ننسى لغتنا ونقول هي حياتنا راحت ذكرياتنا بس بدي منك انه تفهم كلماتنا عشان نتوحد ونرفع فوق راياتنا يعتزوا فينا كمان ولادنا وبناتنا ابياتنا وجداتنا Voilà le mur. Alors là c'est le mur version béton.
C'est un bureau et il y a tous les quelques centaines de mètres un talus.
Ah, oui,
qui
oui,
est
oui.
Exactement à la hauteur, c'est-à-dire lorsqu'une jeep monte sur le talus, sa mitrailleuse lourde est exactement à la hauteur du mur. C'est pour tirer de l'extérieur sur l'intérieur, puisque de l'autre côté du mur, on a la ville de Qalqilya.
Ah oui, 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 oui.
Et il y a aussi, tous les quelques centaines de mètres, un mirador, c'est ces tours à Kerstein.
Les tours ?
Les tours construites par la compagnie à Kerstein, comme le mur d'ailleurs, c'est une compagnie de béton.
Israélienne.
Israélienne. Mais comme ils ont une chaîne de production, il y a trop de tours. Alors maintenant, il y en a partout dans le pays, on met des tours, ces genres de tours très hautes, très moches. C'est des éléments composés, on veut la faire deux fois plus haute, trois fois plus haute.
modulable.
Et à l'intérieur, il y a une petite salle de bain. On peut vivre dans cette tour. Et ils sont très fiers, c'est qu'on peut tirer 360 degrés.
Ah. Mais là, ça y est, c'est en activité. Là,
c'est en activité, tout à fait. Ici, Calquilier n'est pas encore entièrement le mur définitif, qui est aussi composé ici d'un mur, mais plus loin d'une barrière, n'est pas entièrement terminé, mais la ville est bouclée. Il y a une entrée à l'est de la ville, qui est la seule, c'est une ville qui est entièrement encerclée, sauf une porte. Et la deuxième ville, qui est au bout de cette route, encore 15 km, la deuxième ville complètement encerclée par un mur, sur l'autoroute aussi, c'est la ville de Calquilier.
Comment se rendre à Calquilier, voir cette ville, et ne pas employer le mot ghetto? Alors ça, je vous défie. Je vous défie d'aller jusqu'à cette ville, une ville palestinienne, cernée d'un rempart, d'une muraille de béton de 8 mètres de haut, qui transforme la ville en véritable cour de prison. Et la ville est complètement enfermée comme une nasse. Il y a simplement une entrée qui est contrôlée, hyper contrôlée pour tout le monde, pour les véhicules, pour les piétons. Et ne pas employer le mot ghetto, c'est à peu près impossible. Alors, barrière ou mur est en construction, vous le savez. Coût 2,5 millions de dollars le kilomètre. Alors tantôt, comme au nord de la Cisjordanie, c'est ces hauts murs de béton que vous avez vus, 8 mètres de haut, avec ces miradors régulièrement qui scandent cette charmante construction. Et puis, plus au sud, alors, plus de murs, mais une barrière constituée de réseaux de barbelés, d'une piste de détection contre les intrusions, de routes de service, de chemins de patrouille de part et d'autre, jalonnés de senseurs électroniques. C'est tout un matériel qui est installé là, de façon à couper définitivement définitivement pour les uns, provisoirement pour les autres, la partie palestinienne de la Cisjordanie, Oui, parce que, je le disais en commençant, ce mur, cette barrière, a un tracé qui rentre largement dans la Cisjordanie et qui ne suit pas la ligne verte de 1967. Lorsque certains courants israéliens disaient oui, il faut construire une séparation, c'était sur cette ligne verte. On construit actuellement, mais à l'intérieur de la Cisjordanie, si bien que c'est un étouffement supplémentaire pour les Palestiniens, ces barrières ou murs ou obstacles qui sont de toute évidence pour les Palestiniens destinés à cloisonner, à entraver, à étouffer la vie économique, la vie sociale dans les territoires. Et il y a tout pour vous rendre dingue. Comment les Palestiniens peuvent-ils tenir psychologiquement? Parce que si on s'en tient au bilan pour essayer de comprendre la nature et l'esprit de ce conflit, si on regarde le nombre de victimes dans chaque camp, le nombre de blessés dans chaque camp, on comprend pas, ça suffit pas à mesurer l'ampleur du désastre. Un intellectuel palestinien a parlé d'un sociocide. Un grand sociologue israélien, Baruch Kimmerling, a parlé d'un politicide. C'est plutôt avec des mots comme ça qu'on peut mesurer ce qui se passe ici. Ça, c'est les mots, ça, c'est les livres, ça, c'est les idées, ça, c'est les intellectuels. Mais nous sommes au pied de ce mur.
Ce qui est étonnant quand même pour nous, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire depuis notre petit hexagone, le mur est une initiative travailliste et fait presque le consensus en Israël.
Le mur s'appuie sur un sentiment largement partagé en Israël, presque consensuel, qui est la séparation. La paix a été vécue avant tout comme une séparation, bon débarras, vous chez vous, nous chez nous. Et lorsque la paix est impossible, on fait la séparation quand même. Sauf que contrairement à la paix qui devait créer une ligne de séparation mutuellement accepté. Là, c'est unilatéral, c'est imposé. Mais il fait consensus, et je dirais que c'est la gauche, ce sont les travaillistes qui sont les plus fanatiques partisans du mur, parce que dans la droite, certains, ils voient l'ébauche d'une frontière, le risque d'une frontière au sein même des Eretz Israël, ce qu'ils ne veulent pas. Ehud Barak a été interviewé récemment à la télévision, à la radio, et il disait qu'il soutenait totalement la politique d'Ariel Sharon, sauf sur un point, il est trop frileux et trop lent à la construction du mur.
Ceux qui sont contre, finalement, une extrême gauche et une extrême droite.
C'est vrai.
Une extrême droite religieuse.
C'est vrai, les colons sont contre parce qu'ils risquent d'isoler certaines colonies en deçà du mur et de créer éventuellement une ligne plus ou moins de frontière. Et la gauche radicale ou le mouvement, l'aile radicale du mouvement de la paix est contre parce que c'est quelque chose qui est imposé aux Palestiniens et qui vise à les enfermer. C'est pas une frontière. Si c'était une frontière, on le soutiendrait. Mais une frontière, ça se négocie. C'est une séparation imposée aux Palestiniens et un enfermement. Alors ça, c'est le camp de détention de Rafah, qui a connu pendant un an et demi des conditions dramatiques. Les gens vivaient véritablement dans des containers. C'est un camp d'interrogation aussi, où la torture est pratiquée.
La torture est pratiquée.
Elle est pratiquée. Il y a eu toute une série de plaintes qui ont été déposées par des détenus qui ont été torturés ici. Maintenant, c'est un peu plus contrôlé. Mais ça reste un des centres d'interrogation et de triage, en fait.
Mais ce sont des Palestiniens qui sont internés, non ?
Oui, oui, bien sûr. Et c'est à l'entrée de Ramallah. Nous sommes ici, dans la banlieue de Ramallah. Juste après le camp commence la zone de Ramallah.
بتحس حالك بعلك تكتب مقالاتك بتفكر بتحاول عنك تعبر عن شعبك عن حبك عن تعبك عن قهرك بس برضو علبي بتحس حالك بعلبي مقالاتك بتفكر بتحاول عنك تعبر عن شعبك عن حبك عن تعبك عن قهرك
بس برضو قلبي بتحس حالك بقلبي
بتسافر بتهاجر بتغامر بتناور بتحاور بتشاور
بس برضو قلبي.
Donc ça, c'est le tracé. Hein. Là, on voit le tracé du mur. Alors, on ne dit pas le mur, on va dire la barrière, parce qu'il n'y a pas de mur, là, véritablement. Mm-hmm. Hein, mais c'est ça. Quoi. Il y a une porte, là, qui est en construction. Et puis, ça descend à travers tout ce paysage. Là, c'est en construction, en travaux, des travaux impressionnants. Mais la route d'accès de la ville de Masra est déjà coupée.
Et mon attaquement à Damot Chellano.
Nos terres sont coupées.
La kfar ou Batsada Cheni, Batsada Zé, Yeshua de Kfarim, avec la kfar ou mon attaquement à Damot Chellano.
Notre village est coupé de ses terres.
Ah, les terres du village vont jusqu'où ?
Ah, d'accord, 6 km.
Jusqu'à la ligne verte,
d'accord.
67, qui est
6 km
d'ici. Il y avait 6000 dounams de terre à Masra et 5500 sont partis pour la construction du mur.
Et on s'est séparés
de Masra. Plus de 80% qui ont été... C'est une vraie
spoliation. Il y avait des terres pour les fruits, les légumes, les olives, il y avait des serres, une terre agricole. La plupart, c'est des oliviers.
Alors voilà Masra. Masra, cette petite ville de 1000 habitants en Cisjordanie. Eh bien là, on est avec ce jeune homme qui nous... Nazé, il s'appelle Nazé. Et il nous décrit tout, là vous avez tout compris. On est à 6 km à l'intérieur de la Cisjordanie, à l'intérieur donc de la ligne verte de 1967. Et la barrière de sécurité coupe le village et et les champs, et les terres, et la culture. Alors c'est quoi cette culture ? C'est pas de la fantaisie, c'est vraiment des ressources essentielles pour les habitants de la ville de Masra, c'est-à-dire les serres, c'est-à-dire les oliviers. Eh bien, ils en sont séparés. Alors on leur dit que oui, il y aura des portes qui s'ouvriront, il y aura des tunnels. On ne sait pas exactement quels aménagements, mais désormais, dans quelques jours, eh bien, ils vont être coupés de leur propre terre, de leur propre champ, de leur propre univers. C'est évidemment au moins une spoliation. On avance avec Nazé dans ce paysage qui est évidemment pour lui et pour tous les habitants de ce village, mais de toute la Cisjordanie, un désespoir. Est-ce que vous avez des indemnités ? Vous êtes indemnisé ?
Non, ils n'ont pas donné d'argent. Ils ont proposé de l'argent juste à l'endroit où passe le tracé de la barrière. Mais personne n'accepte de prendre ces compensations.
À cet argent ? Ah oui, ces compensations-là, vous n'en voulez pas ?
On ne veut pas de cet argent.
Qui ça ? Vous ou nulle part ? Personne ne les veut.
Personne n'a reçu de l'argent. Pour nous, celui qui reçoit de l'argent, c'est comme s'il avait vendu ses terres, et ça, c'est un traître.
Est-ce que les villageois résistent là ? Est-ce que les habitants se sont organisés pour résister ?
Notre résistance était une tente, un camp de protestation qu'on a fait dans le village. D'aller devant les tribunaux. C'était un camp où il y avait des Palestiniens, des internationaux et des Israéliens. Et parce qu'on a protesté, parce qu'on a fait cette tente, alors on nous a arrêtés. On a arrêté à peu près 40 internationaux, une vingtaine, 25 Israéliens et quelques Palestiniens.
Toi, tu as été arrêté ?
Oui. Et le 21 octobre, j'ai un procès.
Pas facile hein, de contester envers ce pays démocratique qu'est Israël. C'est pas facile de s'exprimer simplement par la contestation pacifique, selon Nazé et selon aussi certains Israéliens qui soutiennent le combat des Palestiniens, la résistance non pas armée palestinienne, mais la résistance pacifique israélienne. C'est le cas du mouvement Taayouch, par exemple, mais il y en a d'autres. Mouvements israélo-palestiniens, de jeunes ou pas d'ailleurs, israéliens et palestiniens, qui ensemble essayent de faire comprendre ce que se représente une telle opération. Quand vous entendez le mot dunam, c'est une unité de mesure qui veut dire à peu près un hectare. Il faut savoir, parce que c'est important on est dans un tout petit territoire hein. La Palestine, c'est un petit territoire, et les unités de les mesures, les dimensions, les territoires, c'est tout ça, c'est très très important. Alors c'est pas seulement, on va le voir, une spoliation de la terre, notamment des oliviers. Il y a des milliers et des milliers d'oliviers qui ont été arrachés, comme vous le savez, dans les territoires, à Gaza, on avait vu ça en 2001. Il y a des ventes d'oliviers, des oliviers centenaires qui sont arrachés et qui sont vendus en Israël pour des jardins particuliers de nantis qui s'achètent de cette façon des oliviers. Mais c'est aussi une catastrophe sur le plan économique, parce que voilà des villes, voilà des villages qui sont coupés des échanges économiques, des marchés par exemple, et c'est le cas de Masra.
Il y a un marché connu, qui était le marché de Bédia, qui se trouvait dans le village de Masra. Et c'était un marché dans lequel des millions de shekels par jour étaient échangés.
בינתיים גרים במסחה אלבעים בין תושבים.
ארבעים?
אלבעים.
לפני זה, לפני 90, בוא נגיד, זה אותו בערך 2,000, אבל בתקופה של השוק היו גרים במסחה 7,000.
Aujourd'hui, il y a 2000 habitants à Masra. À l'époque où il y avait le marché, il y avait 7000 habitants à Masra.
Qu'est-ce que vous avez comme activité, comme travail ici?
Beaucoup sans travail. Par exemple, moi j'ai trouvé là deux jours, un travail pour deux jours, mais ça fait trois mois que je travaille pas.
Alors comment tu fais pour vivre?
Dieu seul sait.
Maintenant
je vais vous prendre chez moi à la maison, vous allez voir quelle maison j'ai. Mais c'est une maison que j'ai construite avant l'intifada. Avant l'intifada, avant qu'on ferme le marché
de
Et à cette période, j'avais mon propre business. Je suis une personne qui a 5 professions différentes et pour le moment, je suis sans travail.
C'est quoi les 5 professions?
Agriculteur, avant tout. Toute ma vie, j'ai travaillé dans l'agriculture ici et en Israël. Je suis chauffeur. Marchand. Je monte des serres. Et je travaille le marbre, je fais des tables, des chaises, des choses comme ça.
Alors tout ça, évidemment, avec la barrière de sécurité ou le mur, comme vous voulez, ça devient impossible pour Nazé. Chauffeur, mais de quoi? Pour aller où? On peut plus circuler, donc on peut plus travailler, il n'y a plus d'économie possible. Et qu'est-ce qu'on fait? On part. Alors ça, c'est une chose dont les Palestiniens ne parlent pas. Surtout, tu parles pas de ça. Mais quand même, on le sait, les Palestiniens s'en vont. Il y a d'abord une élite économique qui est en train de partir, et puis qui est déjà partie, il faut bien dire la vérité. Et puis après, une élite politique, intellectuelle, qui est en train de partir aussi. Et qui va où? Si possible, en Europe, si possible, aux États-Unis, ou bien en Jordanie. Et peu à peu, il se passe ce dont certains rêvent, ne rêvent même pas d'ailleurs, dont on parle carrément et dont on débat ouvertement en Israël, c'est le transfert. Et on ne peut pas ne pas s'interroger sur le lien entre la construction de cette barrière, de ce mur, et le rêve du transfert, c'est-à-dire de transférer une bonne fois pour toutes les Palestiniens hors de la Palestine, hors des territoires. Est-ce ça le but de cette barrière? Si c'est pas le but, c'est quoi?
C'est quand on est à Gader, tu vois, chez la Gader, Gader à Afrada.
Devant nous, là, passe la clôture de séparation.
Même chose là, quand on a mis les Gader à Afrada, nous avons un machine chez nous, c'est Gader à Bartaïd ou Gader à Knubata Adama.
Le gouvernement israélien appelle ça la clôture de séparation. Nous, on a un autre nom. C'est la clôture de l'apartheid. Je pourrais, de mon village, aller dans les 2-3 villages autour, mais pour sortir de cet espace-là, il faut que j'aie une autorisation de l'armée.
En quoi est-ce que cette barrière de sécurité favorise le transfert, d'après toi?
J'ai pas de travail, j'ai plus de terre.
Elle est kavod.
J'ai pas de respect, d'honneur.
Elle est le barnastel à dimchili.
J'ai pas comme donner à manger à mes enfants.
Azmani chéri assez.
Qu'est-ce qui me reste?
Ani kartel à dimchili. Vila khabes izimakam shenim tsa akhli à dimchili.
Je vais prendre mes enfants et je vais essayer de trouver un endroit ailleurs où je peux leur donner à manger.
Et tu pourras pas rentrer.
Vani lo yakhol lakhzor.
Non, je pourrai pas rentrer.
Kishi imani nimtsa vla khouta adama shili. Akhi mani yatsi. Ma yshiru li.
La vente.
Imani nimtsa כבר לקחו את האדמה שלי, כן? שהיא מאחרי הגדר. אבל אם אני אסע, בוא נגיד לצרפת, לגור שם, למה אני אחזור? מה יש לי לחזור אליו? יקחו את הבית גם.
Si je reste ici, j'ai plus mes terres, parce qu'elles sont de l'autre côté de la clôture. Si je vais en France, ils vont me prendre ma maison. Mais de toute façon, qu'est-ce qui me reste?
אבל בגדר שלוקחים מעל 80% מהמים, ממים התאום, לא ישאר לנו מים לשתות.
Mais cette clôture, elle prend aussi 80% de l'eau à boire. Alors il va rien rester à boire. Ils prennent 80% des terres qui sont les meilleures terres pour l'agriculture et les fruits et légumes.
Voilà, voilà, séparation. Alors, si vous comprenez bien le tracé de cette barrière, de ce mur, à l'intérieur de la Cisjordanie, il y a un espace entre la ligne verte, c'est-à-dire la frontière, la limite entre la Cisjordanie et Israël, et cette barrière, ce qui constitue un no man's land. Et à l'intérieur de ce no man's land, si le tracé présenté partout est appliqué jusqu'au bout, jusqu'au sud, eh bien, il y aura 400 000 Palestiniens qui se trouveront dans ce no man's land. C'est quelque chose d'absolument ubuesque, absolument stupide, mais surtout qui ne correspond absolument pas à l'intention claironnée de cette construction qui est la sécurité. On ne peut pas espérer une sécurité si on a 400 000 Palestiniens qui sont entre la ligne verte et le mur. Alors c'est des énigmes auxquelles je crois même du côté israélien on est bien incapable de répondre. Il y a quelque chose d'absolument absurde dans cette construction. On ne peut pas avoir toutes les réponses. Il faut vraiment avoir croire, avoir la foi, être hanté par un dogme pour accepter ces choses-là comme elles sont. Mais un grand poète français qui s'appelait Jean Tardieu avait écrit un poème très bref qui était le suivant: étant donné un mur, que se passe-t-il derrière?
Là, au loin, on voit des maisons, toits rouges. Ça, c'est une colonie qui vient d'être nouvellement construite. Quand ils ont commencé la clôture de séparation, cette colonie-là n'existait pas du tout. Et là, voilà. Et eux nous disent, non, ça, c'est votre terre, on ne vous fait pas de
dommages.
Et on voit la réponse, une colonie dessus.
Ça, c'est une colonie qui s'installe sur vos terres.
Oui, sur nos terres, sur les terres de
Masra.
Il y a là, en bas du Wadi de la vallée, une autre colonie qu'on appelle Etzefraim.
Il
y a la colonie de El Kanan qui est plus à l'ouest.
Il y a Gimel.
Cette nouvelle colonie qui est en train de se construire, c'est El Kanan 2 ou 3. Et derrière cette colonie-là, il y en a encore une autre qui s'appelle Shar et Tikva, les portes de l'espoir. Ces trois colonies-là sont toutes sur les terres de Masra. Ce qu'il faut savoir quand il dit le El Kanan 1, 2 ou 3, il dit ça, c'est une nouvelle colonie, mais on appelle ça El Kanan 2. Mm-hmm. C'est que dans l'esprit des accords d'Oslo, on a essayé de dire qu'on ne construit pas de nouvelles colonies. Donc pour en construire sans que ça ait l'air de nouvelle colonie, on dit non, c'est pas une nouvelle, c'est toujours la même, mais c'est une autre partie. Mais au lieu que la colonie s'agrandisse de façon naturelle, on la construit un peu plus loin, beaucoup plus loin, mais on dit c'est toujours la même colonie, c'est Al-Kanan A, Al-Kanan B, Al-Kanan C. Donc c'est une façon de contourner cet esprit-là des accords de Oslo. Cette maison, c'est la seule qui va être de l'autre côté de la
clôture
de la barrière. Ça va être entre deux barrières. De l'autre côté de cette maison, là-bas, il y a la colonie d'El Kana. Et là, il y a une barrière autour de la colonie, ou devant la colonie. Et il y a une deuxième barrière de l'autre côté de cette maison, qui est la clôture de séparation. Donc cette maison, elle va être entre ces deux barrières.
Alors là, c'est le comble du désespoir et de la spoliation entre cette barrière en construction, c'est-à-dire c'est une piste qui fait 70-80 mètres de large, avec des barbelés, avec des murs pleins d'électronique, des pistes, des routes de circulation pour les véhicules de surveillance, Eh bien, là, il y a une maison qui est restée, qui est coincée entre cette barrière et puis une implantation et puis une colonie qui est là. Et il y a un homme qui est là, absolument désespéré, mais absolument décidé.
Dites-moi ce que va devenir votre maison. Vous êtes le propriétaire de la maison ici?
Oui,
je suis propriétaire. Et qu'est-ce
qu'elle
va devenir, la maison?
Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce qu'on m'a dit. On m'a dit que, en fin de compte, on me laissera rentrer chez moi 3 fois par jour.
Ah, mais la maison ne va pas être détruite.
Jusqu'à
là, non. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais jusque là, non.
Vous n'allez pas partir d'ici?
Non.
Et vous avez des terres autour?
J'avais 3 dounams autour de la maison. On m'en a pris 2. Il reste 1 dounam qui est...
Qui est la surface de la maison à peu près, quoi. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a vu un beau jour apparaître ces engins qui ont détruit ses terres, qui ont détruit ses oliviers, ses figuiers là-bas, et voilà, sans indemnité, et qui aujourd'hui sont en train de construire. Là, il y a les engins qui sont en bas dans la vallée, qui sont en train de remuer les pierres, les caterpillars énormes, et toute une série de bulldozers, des caterpillars de toutes sortes, là-bas, des grands camions bennes, qui sont en train d'installer, de construire cette barrière de sécurité. Là, c'est la piste principale, c'est en cours. Et lui, il voit ça depuis sa maison qui est là. Il espère pouvoir rester dans sa maison. Il veut en tous les cas rester dans sa maison. Il veut absolument s'accrocher à sa maison. Ils sont où les colons? Ils sont là?
Ils sont juste là.
Ah, les maisons qui sont là, des petites maisons, on dirait des petits pavillons de la banlieue parisienne, avec des petites grilles, avec des barbelés. Ça, c'est les colons. Et vous avez des contacts avec eux?
Non.
Non.
Non, pas de contact. Et c'est à 3 mètres. C'est à 3 mètres. Et c'est 3 mètres de barbelés. Voilà. Mais l'objectif, si on écoute les responsables du Conseil des colonies, eh bien, c'est de réunir un maximum de population juive et un minimum de population arabe sur le plus grand espace possible. Et pour les autorités palestiniennes, pour l'autorité palestinienne, évidemment, cette construction, enfin ce mur ou cette barrière, comme on veut, est une violation du droit international et de l'accord d'Oslo. Et par là même, le gouvernement Sharon est en train de tuer la possibilité de créer un État palestinien souverain et viable en imposant sur le terrain des faits accomplis qui amputent et morcellent le territoire de ce futur État. Dans quel État sera cet État ? Alors ça fait deux mois que vous vivez avec les bruits des engins jour et nuit.
Ken.
Et tous les jours ils viennent vous voir pour voir si vous avez réfléchi pour ce qu'on peut faire pour la maison.
Ils sont venus beaucoup, puis à un moment ils ont compris qu'ils n'arriveraient pas à me convaincre, donc ils ont arrêté.
Vous êtes combien dans la maison? Vous avez des enfants?
On est 8 personnes.
Ah oui, 8 personnes dans cette maison.
Et
je suis aussi agriculteur, j'ai une terre, mais elle est vers Kfar Kassem, qui est un village de l'autre côté de la clôture, et donc ça aussi, ça disparaît.
Alors qu'est-ce que vous allez faire alors?
Je vais rester dans ma maison et je vais essayer de vivre ma vie le plus normalement possible. Jusqu'à là, ça va encore à peu près, parce que comme vous voyez, la porte
d'entrée vers le village n'est pas encore fermée. Le vrai problème, c'est quand ils vont fermer cette porte-là d'entrée dans le village.
Et alors ?
J'ai des enfants qui doivent aller tous les matins à l'école.
Il faut
acheter de la nourriture à l'épicerie.
Il faut que
rendre visite à mes parents. Les parents puissent venir nous rendre visite. Si un enfant est malade la nuit, il va falloir bouger, on va pouvoir bouger.
Même
quelqu'un en prison qui a un problème médical, qui a un gros problème, il appelle quelqu'un et quelqu'un vient l'aider. Moi, je suis là et je suis sûre que je pourrais appeler, demander de l'aide, tout ce que je peux. Rien, personne ne viendra m'aider.
Qu'est-ce que ce serait pour vous un État palestinien ? Dans les frontières de 67 ?
Ma chani rotse, c'est ma chouakher.
Moi, ce que je veux, c'est quelque chose d'autre. Je ne veux pas rentrer dans moi ce que j'aurais voulu. Au moins qu'il y ait quelque chose de logique, de cohérent, une seule chose.
Qu'il
y ait un état, même sur 10 mètres. Mais il est où cet état, même sur 10 mètres ? Moi, dans mon passeport, il y a écrit que je suis palestinien et que j'appartiens à l'État palestinien. Mais qu'est-ce qu'on voit autour ? Je suis une partie de ce pays dont on parle dans le monde. Le gouvernement israélien a pris ma maison, a pris ma vie, a pris tout ce que j'ai. Ils m'ont pas mis en prison, mais peut-être j'aurais été mis en prison.
Est-ce que vous êtes d'accord avec le Hamas ?
Le Hamas, c'est des gens exactement comme moi, des gens sans vie. Nous, les Palestiniens, on a le droit de faire ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce que déjà, on n'a pas de vie, on nous a pris toute notre vie. Et donc, on agit sans réfléchir.
Vous n'avez plus rien à perdre.
C'est fini, on a tout pris, qu'est-ce que je peux perdre ?
Mais c'est suicidaire.
Et chaque personne pense à ça à la fin.
Supposons qu'on détruise votre maison. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez au village ou bien vous partez en Jordanie ?
Je vais rester assis ici et qu'ils détruisent la maison sur moi. Après ça, s'ils détruisent ma maison, ça sera sur moi. Après ça, je ne sais pas ce que je ferai. Je n'ai pas réfléchi à ça. J'irai avec le Hamas, j'irai pas avec le Hamas. En tout cas, je suis sûre que je ferai quelque chose de très dur.
Au pied du mur, voilà, merci à tous. Merci à Nazré de Masra, merci à Karen Akoka, notre traductrice, merci aussi à Michel Barzavski. Reportage Guy Vanctil, technique aujourd'hui Alain Arnstam, Jean-Philippe Jeanne. Répondeur, c'était Yann Chouquet aujourd'hui. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Musique Coyen Guyen, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Le journal Delphine Simon.